Vous écoutez Dutrisac, Cube Radio.
Loïc Tassé est avec nous pour parler de politique internationale, américaine, commerciale, japonaise, chinoise, tout ce que vous voulez. Monsieur Tassé, bonjour.
Salut Benoît.
On écoute Donald Trump pour te faire plaisir.
Ah, ça me fait beaucoup plaisir.
But we let him, Dr. Fauci is a very nice man, but we let him do what he wants to do. He gets a lot of television. He loves being on television, and we let him do it. Sometimes he says things that are a little bit off, and they get built up, unfortunately. But he's a nice guy. I like him. But he's called a lot of bad calls. He said, don't wear a mask, and he said, don't ban China. They were bad calls. He admits that. And I don't hold that against him. If I did, I wouldn't have him. I don't want to hurt him. He's been there for about 350 years. I don't want to hurt him.
Hein?
C'est écœurant, ça se peut dessus.
Ouais.
Aucun respect pour Fauci qui a été connu lors de la crise du sida là, au début des années 80.
Oui, mais il est là depuis 350 000 ans. Donc, il veut plus entendre parler de lui. Et puis, il dit ailleurs, enfin, que c'est un désastre, que de toute façon, c'est un idiot. Et puis, voilà. En d'autres termes, Trump est en train de dire qu'il n'a pas écouté les scientifiques qui s'en vantent, que les gens en ont assez d'entendre parler du coronavirus. Là-dessus, remarque, il a probablement raison. Tout le monde en a assez, mais on est dedans.
Ça ne veut pas dire que ça va partir pour autant.
Non, exactement. Mais le fond du message, c'est quoi? C'est dans le fond que Trump est meilleur que tous les savants réunis, parce qu'il dit, si je les avais écoutés, ça aurait été pire, etc. Mmh. Alors, j'ai des petites nouvelles, moi. J'ai été voir les statistiques. Sais-tu quoi? On est rendu aux États-Unis. Bon, il y a des pics à 70 000, mais en moyenne, là, on fait 60 000 nouveaux cas de coronavirus par jour.
Une population de 340 millions aussi.
Oui, mais comparons à eux-mêmes. Ils étaient à combien au mois d'avril, mars, hein, lorsque on était en plein milieu de la première vague, on était à 30 000.
Mmh.
Donc, il y a deux fois plus de cas maintenant qu'il y en avait à l'époque. Et on a quand même 1000 personnes qui meurent à peu près chaque jour, un peu moins de 1000, tous les jours, qui meurent à cause de la COVID-19 aux États-Unis.
Ouais.
Alors, on peut bien faire en semblant qu'il n'y en a pas de crise, qu'il n'y a rien qui se passe. C'est quand même pas mal de monde qui meurt pour ça. Mmh. Il y a vraiment une crise, sans compter tous ceux qui sont hospitalisés, sans compter tous les hôpitaux qui commencent à être débordés. Il y a vraiment un problème qui se passe aux États-Unis. Et remarque bien, hein, il n'est pas le seul à avoir fait ça. Moi, j'ai entendu ça de la part de Mao, de Staline, Kim Jong-un aussi. Non, mais c'est ça. Ça fait partie du culte de la personnalité. Je suis meilleur que les spécialistes. La science attend. Écoutez-moi. C'est moi qui ai raison. Ça, c'est Donald Trump maintenant qui dit ça. Alors bon, pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est ça le fond de la question.
Oh, ça, c'est la grande question pour surtout Donald Trump.
Oui, il y a beaucoup de gens qui commencent à se demander si Donald Trump n'est pas en train de paniquer. Je suis pas sur Fauci, je suis pas si sûr parce que je pense que ça fait partie de sa personnalité. Mais c'est vrai que c'est pas habile de se mettre à dos les médecins, puis tous les gens qui souffrent, puis tout le monde en connaît, des Américains. Quand t'es rendu à 60 000 cas par jour, tu sais, il y en a beaucoup qui sont malades. C'est pas très adroit de faire ça. Il montre aucune empathie envers ces gens-là. Mais s'il y avait que ça. Il y a d'autres choses aussi. Tu sais qu'on va avoir un débat, finalement.
Hmm?
Mais oui, on va avoir un débat en ligne entre Trump et Biden.
Ah
Trump
oui.
On pourrait faire accepter, ben finalement.
Oui. Bon.
Et avec les micros qui vont être fermés, en plus, pendant que l'un va intervenir.
Bon, ça, c'est une bonne affaire.
Oui, sauf que Trump avait dit qu'il voulait pas d'un débat en ligne, que ça valait pas. Puis, c'est implicitement reconnaître qu'il a eu tort, qu'il a interrompu Biden tout le temps.
Mais non, ça prouve qu'il est ouvert d'esprit, puis il accepte les changements. Soyons pas si durs envers le pauvre Monsieur Trump.
Tu permettras mes années de politologue derrière, de mes 350 millions de politologues de sortir, puis de dire, ben, sais-tu quoi? C'est parce qu'il tire de l'arrière. Puis s'il était à l'avant, il n'aurait pas besoin d'aller à la télé. Ça s'est très mal passé la dernière fois, dans le sens où il y a plus de gens qui ont écouté Biden que de gens qui ont écouté Trump.
C'est vrai?
Oui.
C'était si plate. Biden, c'était si plate avec son ami Stéphanopoulos.
Je sais que c'était plate.
Ben voyons.
Le show de Trump était meilleur, mais il y a plus de gens qui ont voulu savoir ce que Biden avait à dire. Et Trump n'a pas pu l'interrompre, n'a pas pu contrer ses arguments. Biden a exposé son programme. Mmh. Donc, il faut pas que ça se repasse pour lui. Ça pourrait être pire au troisième débat. Donc, il va aller en débat avec lui parce qu'il tire de l'arrière, parce qu'il veut pas laisser Biden exposer ses idées. Et c'est bien le signe, ça, que sa campagne va mal. Troisième signe que la campagne va mal... En ce moment, aux États-Unis, le débat se déplace sur le contrôle du Sénat. Ça devient de plus en plus difficile pour les républicains. On sait que les républicains contrôlent le Sénat. Il y a 53 sénateurs républicains contre 47 démocrates. Sauf qu'il y a 10 sièges de sénateurs républicains qui seraient en danger. Et il semble que les républicains commencent à entrer en mode sauvetage. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est quelque chose qui est nouveau dans la campagne. Et la preuve de ça, pour les républicains, enfin, on pense qu'on voit ça à travers les donations, par exemple. Les démocrates, dans les États qui sont en danger, ont reçu plus d'argent, presque trois fois plus d'argent que les républicains. Mmh. Et ça fait peur donc aux républicains,
c'est étonnant.
Même s'ils ont encore beaucoup d'argent à dépenser.
Ben oui. Bon, et le gouvernement américain veut poursuivre Google.
Oui, pour abus anticompétitifs, parce que Google, évidemment, est un monopole ou un quasi-monopole. Et donc, il y a 11 États qui se joignent à la poursuite aussi. Et il est question de démanteler Google. Google dit, non, vous savez, vous pouvez le faire si vous voulez, mais nous, on ira ailleurs si vous essayez de faire ça, d'une part. Et d'autre part, vous allez vous tirer dans le pied. Parce que si vous nous démantelez, on sera pas assez fort pour lutter contre les entreprises chinoises qui font la même chose que nous. Donc, pied de nez au gouvernement américain. Essayez de faire ça si vous voulez. On s'en va si vous réussissez. Et de toute façon, réfléchissez bien parce que la compétition chinoise est là et ça va aller contre la sécurité des États-Unis. On va voir qui va gagner, mais c'est sûr que là-dessus, Google a des arguments qui sont quand même assez forts.
Bon. Qui est Mike Pompeo?
Mike Pompeo, qui est le secrétaire d'État américain, a décidé, il y avait un grand sommet virtuel entre lui et les dirigeants du Brésil hier, et il détaillait une déclaration qui a été remarquée. Il a dit que selon lui, les États-Unis et le Brésil devaient renforcer leurs relations d'affaires, jusque-là ça va, et réduire leur dépendance aux importations chinoises, surtout dans les produits stratégiques, et que donc les deux pays en sortiraient plus prospères. Ça, c'est assez intéressant parce que tu te souviens, il avait été au Japon, je t'en avais parlé. Ça fait partie, ça, de cette grande cabale des États-Unis pour réunir les alliés contre la Chine. Et ça va pas arrêter, ça, que Trump soit élu ou que ce soit Biden qui soit élu. Les deux vont continuer dans ce sens-là. C'est pour ça que je surveille ça. Le problème, c'est est-ce que les Américains vont arriver à faire plier le Brésil? Parce que le Brésil est un pays qui a une économie qui est très complémentaire de celle de la Chine. C'est-à-dire que ils produisent, en fait, les deux pays ne produisent pas la même chose, ils n'exportent pas la même chose. Donc, ils sont complémentaires. Et plus que ça, la Chine est le principal partenaire économique du Brésil. Le Brésil lui vend la plupart de son fer et de son soja. Donc, c'est pas du tout sûr que le Brésil obéisse. Mais c'est très intéressant encore de voir combien les États-Unis essaient de se mettre à travailler fort pour essayer, justement, de liguer leurs alliés contre la Chine.
Bon, et des nouvelles mesures prises en France pour lutter contre quoi?
Contre, attends voir, où est-ce que j'ai écrit ça? Ah, contre l'islamisme.
Ah bon,
oui.
Regardons.
Oui, je sais, tu te cherchais toi aussi. Donc, fermeture d'une mosquée en banlieue de Paris, à Pantin, parce que cette mosquée avait relayé sur sa page Facebook, figure-toi, une vidéo qui dénonçait Samuel Paty. Et donc, la mosquée va être fermée pendant 6 mois. On a appris en plus que l'imam de cette mosquée était un islamiste qui avait ouvert une école clandestine où il islamisait des enfants de 2 à 6 ans, forçait les filles à porter des foulards, etc. Tu vois,
ben,
le genre.
C'est
hein.
Ça. Parfait.
Ouais. Et alors, on va demander en France aux médias sociaux de lutter contre le cyber-islamisme, c'est-à-dire qu'on va demander aux moteurs de recherche de faire attention à ça, et surtout, on va distribuer dans tous les lycées en France un recueil de textes, de caricatures politiques et religieuses. et avec une mise en perspective des historiens. Ouais. Je trouve que c'est une excellente idée. Ouais. J'espère qu'on aura accès à ce livre au Québec, et j'espère aussi qu'en classe, ici au Québec, on va montrer ces caricatures politiques
au Québec,
et religieuses.
Au Canada aussi, là, Justin Trudeau n'a pas dit un mot sur le sort de Samuel Paty. Encore une fois, une belle preuve de courage légendaire qu'on accorde à Justin Trudeau.
Totalement. Ouais, il y a une grande division, malheureusement, entre le Canada anglais là-dessus et le Québec.
Ouais.
Il y a vraiment deux conceptions complètement différentes de la liberté de penser, de la liberté d'expression. Je te dirais qu'au Canada anglais, on se fait contaminer par une conception très américaine, très multiculturaliste, et qui est en train de tuer, effectivement, la liberté
d'expression. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il n'y a pas d'intégrisme religieux chez les licornes. Fait que Justin ne peut pas comprendre. C'est ça le problème. La pandémie qui s'accélère en Europe, là, c'est pas drôle.
Non, c'est pas drôle, à tel point que les autorités belges ont parlé d'un tsunami. Je t'avais dit aux États-Unis que c'était deux fois pire. Ben, alors, il semble aussi qu'en Europe, c'est deux fois pire que la première. Ça s'annonce en tout cas comme ça. Déjà, les lits d'hôpitaux commencent à manquer. On est en train d'échanger des patients, de transférer des patients d'un pays à l'autre en Europe. En Pologne, et c'est peut-être l'image la plus forte de tout ça, le stade de Varsovie a été transformé en hôpital. Un hôpital de 500 lits, dont 50 aux soins intensifs. Et tout ça vient d'un problème dont on se doutait, c'est-à-dire que le virus résiste mal à la chaleur, mais il résiste très bien au froid. Et effectivement, on entre dans l'hiver en Europe.
Aïe, c'est vraiment...
Mais nous, on n'a aucun problème.
Non, tout va bien. Tout va bien.
Oui.
877 cas aujourd'hui. Ça va s'améliorer. Soyons, gardons espoir, soyons positifs.
Voilà.
Parfait. Merci, M. Tassé. À demain.
Salut, à demain.